parler de hockey avec notre ami Érico. Salut Éric.
Hey, salut, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Éric, d'entrée de jeu, je vais te poser la question parce que là, au moment où on enregistre le podcast, le Canada joue contre la Suède, c'est toujours 0 à 0. On aura un match canadien, équipe olympique canadienne. Qui gagne?
Ça serait un bon match, mais je serais quand même avec le Canadien. Écoute, Danny, c'est quand même. T'sais, je l'ai vécu dans les deux cas. Il y a quand même une bonne marche entre des joueurs Ligue américaine ou un peu Europe fin de carrière et puis la Ligue nationale, même
Ouais.
si il y a quelques gros noms, mais ça reste que il y a quand même une bonne différence. Le côté rapidité, exécution, erreur sur la patinoire, comme je disais, même si Montréal sont derniers, mais ça ferait quand même un bon match parce qu'on a beaucoup d'expérience du côté du Canada aussi. Il y a quelques anciens joueurs, mais ça reste que les anciens joueurs souvent ont perdu un peu de vitesse.
Ah ouais, on
Sont
voit
plus
qu'Eric Stahl,
âgés.
il
Fait
marche
que.
plus pantoute, là, Eric Stahl.
Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a déjà été un très bon joueur, mais là, en fin de carrière, des fois, les jambes, ils suivent moins un petit peu. Fait que ça
Ouais.
reste Montréal. Il y a beaucoup de bons joueurs. Je dirais que les Canadiens, quand même.
Surtout que c'est une glace olympique, c'est pas pareil. Une glace olympique, un gars comme lui, se démarque pas,
Ouais, ben, c'est ça aussi la différence. T'sais, souvent, tu
là.
as des bons joueurs au niveau nord-américain. On arrive sur une grande patinoire, ça fait l'inverse. Puis à l'inverse aussi, il y a des joueurs très bons en sol européen. On le voit souvent avec des jeunes espoirs, Danny, sont très bons en Europe. Grande patinoire, plus d'espace un peu dans les coins de patinoire et tout. Plus le temps avec ton temps de réaction est meilleur un peu. Tu arrives sur les patinoires ici en Amérique du Nord, c'est plus serré. Moi, une petite fraction de seconde de moins pour faire ton jeu. Donc, il y en a qui s'acclimatent bien, mais d'autres, c'est plus difficile.
Mais ce serait pas une dégelée, là. Je pense pas qu'on aurait.
Non,
Ce
non, non.
serait pas une dégelée. Je serais curieux d'avoir ça. Ça pourrait être,
Ouais.
ça aurait pu être amusant, pareil. Hey, Eric, t'as eu ta folie, t'es changé. Écoute, moi, je suis bien content. Bien content du retour qu'on a eu. Un choix de première ronde, c'est quand même pas rien. Même si on dit qu'à partir du 20e rang, on évalue à peu près à 40% les chances du choix de faire la Ligue nationale. C'est quand même un bon repêchage. Après ça, t'as Eggman, on dit que c'est un Arturi Lehkonen en peut-être plus gros, ce qui serait pas mauvais non plus. Non, je suis vraiment pas déçu de l'échange,
Ben, en fait, Danny, c'est parce que là, on parle de reconstruction.
moi.
Donc,
Ouais.
si tu veux reconstruire, c'est certain, à un moment donné, faut que tu donnes un peu de bonbons. Puis, c'est sûr, Toffoli, à 29 ans, avec la durée de son contrat, il fait quand même seulement 4 millions. C'est pas énorme. C'est un marqueur de 20 buts. Donc, c'est pas mal un des joueurs qui était le plus attrayant du côté du Canadien. Oui, on aimerait ça donner notre bois mort un petit peu, ceux qui sont en fin de carrière ou ceux qui ont des mauvaises saisons, mais les autres équipes, souvent, c'est pas ces joueurs-là qui ont ciblé, qui aimeraient ça d'avoir dans leur équipe. Donc, tu veux reconstruire, tu dois donner des bons joueurs en retour de choix de première ronde. Puis, Toffoli, je pense que c'est un joueur attrayant pour Calgary, comme il était sûrement pour d'autres formations, contrairement à d'autres dans le Canadien.
Ouais, effectivement. Le prochain, là, Pierre Lebrun, qui est quand même un insider quand même réputé, c'est pas un insider de salon, là. Lui, il prétend que c'est Ben Chariot, je serais vraiment pas surpris. Le retour, écoute, on dit qu'il y a une dizaine d'équipes qui sont intéressées. Je comprends, parce que Ben Chariot, c'est un défenseur de série. On sait que c'est un gros défenseur qui est robuste, qui peut garder. Moi, écoute, l'Avalanche du Colorado, qui a plusieurs défenseurs, qui a plusieurs défenseurs pareils, je vais te dire que c'est une équipe qui, on dit, qui est un sérieux aspirant à la Coupe Stanley. Je pense pas qu'il ait besoin de Claude Giroux, comme les rumeurs le mentionnent. Il aurait plus besoin de Ben Chariot.
Ben oui, c'est sûr, à l'approche des séries, premièrement,
Ouais.
des défenseurs de qualité, il n'y en a pas beaucoup au niveau de la Ligue
Non.
nationale qui sont échangeables. C'est plus facile d'échanger des attaquants. Défenseur, comme tu disais, robuste, un joueur de série. Dernière année de contrat aussi. Donc, tu sais, si tu ne l'échanges pas, peut-être tu le perds un peu comme Philippe Dano pour rien. Donc, oui, ça serait un joueur qui va sûrement être échangé dans les prochains jours, j'imagine, même si j'aimerais le garder à Montréal, justement, pour bien entourer les jeunes. Ça te prend des joueurs pareils. On parle de développement, de reconstruction, mais ça te prend des joueurs pour épauler ces jeunes-là. Ça serait bon de garder Charrot, mais en même temps, tu vas sûrement le perdre cet été au profit des joueurs autonomes. Donc, tout ça va être échangé. Si on a réussi à avoir un bon espoir, un premier choix pour Toffoli, j'imagine qu'un gars comme Charrot, on pourrait avoir sensiblement la même chose, sinon un peu plus, parce que il est plus en demande. Tu peux créer une surenchère. Il y a sûrement plus d'équipes qui sont à la recherche de ce genre de défenseur-là à l'approche des
Toi,
séries.
c'est Petrie, t'as parlé un choix de première ronde puis troisième ronde. J'ai entendu au 91-9 mentionner que Petrie. Ouais. Mais là, plus il attend, plus sa valeur. Ben non, c'est pas vrai. Plus non. En théorie, sa valeur baisserait parce qu'il joue tellement mal. Mais d'un autre côté, plus on approche de la date limite des échanges, plus ça monte aussi. Là.
Ben c'est ça, Carrie. C'est ça, ouais. Je disais à la radio 91, je disais là, présentement, sa valeur est pas très à la hausse.
Ouais.
Mais à l'approche de la date limite des transactions, justement, les équipes qui recherchent un défenseur. Peut-être à un moment donné, te cibler un défenseur X, puis il s'est fait transiger à l'autre équipe. Donc, tu vas être un petit peu mal pris. Je pense que des équipes qui vont être un petit peu nerveuses à la date limite des transactions, là, whoop, il manque un défenseur. Donc, sûrement que plus le temps va approcher, plus sa valeur va augmenter parce qu'il va y avoir moins de défenseurs disponibles. Donc, même s'il joue du mauvais hockey, ça reste qu'il y a quand même un bon nom. Il était bon l'an passé. Donc, présentement, je pense pas que ce serait une bonne idée de l'échanger demain matin. Mais à la date limite des transactions, comme je dis, il y a quelques équipes qui vont être plus tentées de donner un petit peu plus pour Petrie, même si il joue du mauvais hockey. Fait que je serais plus patient dans le cas de Petrie parce qu'il joue pas bien. Mais dans le cas de Chara, je pense que ça pourrait arriver assez rapidement.
Tu fais quoi avec les gardiens de but? Il m'a dit une affaire, Primo, c'est pas rassurant du tout, du tout, du tout.
Non.
Price, on ne sait pas ce qui s'en vient. Dans tous les joueurs qui... c'est drôle, hein? Dans tous les joueurs qu'on va échanger, j'essaierai d'avoir un gardien de but d'avenir. Il y a le Danois là, qui est aux Olympiques, qui semble-t-il qui est très bon, mais très bon, il faut s'entendre. Mm-hmm. Là, c'est un choix de 5e rond. Moi, qui ai Guillaume Primo, j'ai l'impression qu'on l'a scrappé, mais on a vraiment brisé sa confiance. Ça va être dur. Il va être dur à relever, il faut qu'il soit fort mentalement. Est-ce que tu penses qu'un gardien de but d'avenir pourrait être dans tous les joueurs qu'on va aller chercher?
Ben, je pense que c'est une priorité. Si c'est pas présentement, ça va être cet été. Même j'irai plus loin, ça va prendre un gardien de but. Ça va prendre un gardien de but établi et non un espoir gardien de but. Parce que là, si Price revient pas ou s'il revient, puis il est encore à 80, à 75%, puis il est encore tout le temps sur la liste des blessés. OK, on a Allen comme deuxième, mais ça prend un gardien de but établi. Donc je pense que la priorité. Peut-être que ça va être difficile présentement à l'approche des séries, mais cet été, que ce soit transaction ou joueur autonome, tu te dois d'aller chercher un gardien de but numéro 1. Là.
Ben, Jake Allen peut faire le travail, non? C'est un Brian Ewart. Moi, je ne comprends pas Brian Ewart.
Faut pas oublier que Jake Allen, il est vieillissant aussi. Puis, il a déjà eu sa chance comme gardien de but numéro 1 à Saint-Louis. Qui n'avait pas bien fonctionné. Moi, je pense que c'est un excellent deuxième gardien de but. J'ai mes doutes sur un gardien de but numéro 1. Donc, si on pense que ça ferait un gardien de but, peut-être pour en jouer 55. Puis on met Allen une trentaine de matchs devant le filet. Donc, je pense que c'est une des priorités, mais pas pour cette année, parce que de toute façon, tant mieux qu'on peut en avoir un, mais la saison est déjà à l'eau. Mm. Mais tu peux pas recommencer l'an prochain avec un Carey Price avec des points d'interrogation, puis un Jake Allen comme deuxième, puis un Montembeau, peu importe, comme troisième. Donc, tu sais, c'est sûr, tôt ou tard, il faut aller chercher un gardien de but numéro un.
OK. Martin Saint-Louis, comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai encore beaucoup, beaucoup de réserves. Je suis très déçu pour les entraîneurs québécois. Moi, je vais te le dire tout de suite, là. Mon choix, c'était Benoît Groulx, avec un vétéran entraîneur qui a beaucoup d'expérience comme entraîneur-chef, mais qui ne veut plus être entraîneur-chef. Un genre de Rick Bowness, Ken Hitchcock, quelque chose de même, qui a de l'expérience pour aider Benoît Groulx. Parce que, tu sais, si on n'est pas les... Benoît Groulx, il a fait ses classes. Là. Si on ne donne pas la chance à des Québécois dans la Ligue Jean-Marie du Québec, puis les derniers Québécois... Tu sais, à part le Canadien, André Tourigny était le premier Québécois à ne pas avoir passé par le Canadien, à avoir atteint la Ligue nationale, là.
Fait que, non, t'as raison.
Moi, Benoît Groulx, c'était mon homme. Je trouvais ça vraiment... c'est ça. Fait que, aider peut-être avec un vétéran comme Bonus, Ken Hitchcock, Mike Ramsey, Lindy Rock, quelque chose de même. Là. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme entraîneur-chef, mais qui veut plus l'être, nécessairement.
Ben, c'est sûr, c'est surprenant parce que le gars coachait Pee-Wee, premièrement.
Ben oui.
Mais deuxièmement, écoute, on l'a dit plus tôt, c'est plate ou c'est frustrant ou on est d'accord ou non, mais... C'est des chums, c'est des amis. Il a amené une bonne connaissance. C'est certain que tu peux être un excellent joueur de hockey, mais pas nécessairement un bon entraîneur.
L'histoire du sport le prouve. Là.
C'est ça, exactement. Puis, tu sais, il arrive. Martin Saint-Louis n'arrive pas dans de bonnes conditions aussi. Là, c'est une équipe de dernière position. On va être en reconstruction 2-3 ans. On l'a mis par intérim. Oui, je pense qu'il va avoir des qualités pour développer des jeunes, mais de diriger 20 individus, même si c'était un Hall of Fame.
C'est
différent. Donc, tu sais, puis il dit aussi, dans le fond, il est honnête aussi, il y a des choses à apprendre, il va manger son pain noir un peu. Mais de diriger au quotidien une équipe de Ligue nationale ou même Ligue américaine ou junior majeur, c'est difficile. De la préparation, que ce soit ton équipe, l'équipe adverse, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce qu'il est prêt à faire ça? J'ai mes doutes aussi. Mais on va laisser la chance au coureur, on ne sait jamais. De toute façon, il ne peut pas être pire que l'équipe est présentement. Mais j'avoue que c'est surprenant d'avoir pris un gars vert, une recrue comme ça, qui n'a aucune expérience, même comme assistant entraîneur. Toi, on le compare souvent à Rod Brind'Amour, mais Rod Brind'Amour avait été...
6 comme entraîneur adjoint.
Exactement. Puis Caroline ont quand même une bonne formation. Donc, c'est vrai que ça peut être frustrant pour les entraîneurs québécois qui sont développés ici. Là, toi, tu parlais de Benoît Groulx, mais tu sais, on aurait pu mettre un Pascal Vincent. Ouais, on aurait, il y aurait plein de noms qui attendent leur chance. Mais comme on disait, Ken Hughes, Gorton, c'est pas des gars d'ici, même si Hughes est un Québécois, mais ouais. c'est pas un gars qui a appris avec le Canadien. Donc, est-ce qu'on fait fausse route? C'est certain que les gens, avec ce type d'embauche-là, même si Martin Saint-Louis est un gars respecté et a une prestance, ben, on va être moins patient. Puis je le mets à l'inverse aussi, Danny. Ben, Martin Saint-Louis, c'est un gagnant, c'est un gars qui a eu du succès partout. S'il advenait au niveau au début, c'est tout nouveau, tout beau, mais avec
faire quelques semaines. C'était ma prochaine question, mais Eric, t'as déjà été dans un vestiaire, toi. T'es un joueur de hockey. Oui, Martin Saint-Louis commande le respect. Mais si le gars n'a pas de compétences, Patrick Roy, tu mets Patrick Roy là, il fait plusieurs années qu'il est coach avec les Remparts, il a eu un Jack Adams, c'est pas pareil. Là.
Non, c'est pas pareil.
Les gens le regardent, puis il a sa crédibilité, puis en plus, c'est l'expérience. Mais Martin Saint-Louis, il n'a aucune expérience, ça a bien beau être un Art Ross, combien de temps ça peut durer, ça?
Bien, ça va dépendre de lui. Moi, comme j'allais dire, je le mets à l'inverse. Ouais. Si Martin Saint-Louis ne gagne pas cette saison, on commence la saison prochaine, il décide de recommencer avec les Canadiens, il a aimé l'expérience, puis là, whoop, ça va pas comme il veut, l'équipe va pas bien, c'est pas le fun de venir à l'aréna. Est-ce que lui va vraiment aimer ça, ce rôle-là, de seulement développer et de perdre soir après soir et d'essuyer les critiques? T'sais, quand t'es un joueur, t'as seulement toi à penser, mais là, t'en as 20 devant toi, puis c'est à toi à les diriger et les motiver, puis à un moment donné, même si t'es Martin Saint-Louis ou Scotty Bowman, si t'as pas une bonne équipe devant toi, tu peux pas faire des miracles. Donc, tu sais, ça va être à lui de voir est-ce qu'il va être à l'aise dans ce rôle-là. Je veux pas dire le mot perdant, mais dans ce rôle de développeur, de seulement être à l'aréna pour espérer dans 2 ans être une équipe compétitive. Parce que là, on le sait, ça va être difficile cette année, ça va être difficile l'an prochain. Est-ce que lui, au quotidien, il va dire hey, « j'aime vraiment ça, coacher ce genre d'équipe-là ». Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est un couteau à 2 tranchants. T'es content d'avoir ta chance au moins un tu as tout le temps rêvé de faire ça. Mais là, tu arrives là, puis ça va pas comme tu veux, puis tu gagnes pas, puis t'es dans l'âme, tu as toujours été un gagnant, puis là, ça fonctionne pas. J'ai hâte de voir comment il va réagir, mais c'est pour ça aussi, je pense qu'on l'a mis par intérim, puis je sais pas lui combien de temps qu'il va être capable de durer dans des conditions perdantes comme ça.
Wayne Gretzky, Magic Johnson, Maradona, Denis Savard, il y en a plusieurs. Là. Tu vas me dire que.
Fait que ça, c'est quoi.
Eric, merci beaucoup. On se reparle peut-être dans une couple de semaines.
Parfait, mon ami. Merci beaucoup.
Notre ami Eric Hood.